Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mondial Sport, l'émission de tous les exploits aux quatre coins du globe sur RFI. La discipline que nous mettons à l'honneur ce dimanche est-elle aussi ouverte d'esprit que notre slogan ? C'est parti porte d'Auteuil dans l'ouest de Paris pour Roland Garros, l'un des plus grands tournois de tennis de la planète, incontestablement. Mais le tennis est-il fait pour tout le monde ? Outre ses règles ésotériques, l'univers de la petite balle jaune est souvent critiqué pour son élitisme. Réel ou supposé, à Roland, il n'y a pas de dress code comme à Wimbledon du côté de Londres, mais tout de même, le polo avec un petit crocodile dessus, les chaussures bateau, le pull noué autour de la taille sur les épaules, sont un peu partout autour des cours, Philippe Châtrier ou Suzanne Lenglen. Un style bourgeois, le parfait uniforme pour un sport de riche. Sport de riche où le blanc est de mise et pas seulement sur les tenues des joueurs, le manque de diversité est régulièrement pointé du doigt quand il est question de tennis, malgré Serena Williams, Joe Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Arthur Fils aujourd'hui, Arthur H jadis et son disciple, un certain Yannick Noah. Yannick Noah, le dernier Français sacré sur la terre abattue de Paris, ça commence à remonter, et qui via son association Faites le Mur, et ça c'est bien actuel, célèbre et promeut la diversité dans un sport qui, après tout, peut se jouer sur beaucoup de surfaces différentes. Alors, faisons et fêtons le mur dans Mondial Sport.
C'est ma première fois à Roland Garros. On a eu les places par rapport à notre société, donc on s'est dit pourquoi pas voir l'ambiance en direct sur place.
Est-ce que vous connaissez les règles ?
Les 7, je crois. Je sais tes matchs, non ?
Je suis fan du Paris Saint-Germain et je pense que c'est la semaine prochaine. Mais quand même, là je suis ici, donc je profite. Et après, quand je rentrerai, bah, j'aurai la tête dans la Ligue des Champions.
Nous avons un collègue qui nous a gentiment invité à venir. En toute honnêteté, quand je regardais à la télé, ça ne m'intéressait pas. Mais de venir en vrai, là je vois vraiment le côté stratégique et la force. Les bruits, ça m'éclate.
C'est un événement qui a lieu qu'une fois par an, donc ouais, quand on a l'occasion d'y être, venons.
On a combien de matchs à voir ? Trois ? Ouais, trois matchs. On est sur le court Philippe Châtrier. Et après, j'ai pas fait mes devoirs, donc j'ai pas regardé qui jouait.
Et vous savez ce qu'il y a en fin de journée, justement, sur le Philippe Châtrier ou pas du tout ?
Il y a la nocturne.
Non, avant.
Avant, j'en ai aucune idée.
Il y a un hommage à Raphaël Nadal, en fait.
Sérieux ? Ah, mais j'ai pas été. Non, j'ai pas vu l'info passer. Ok, vous m'apprenez un truc. Merci Babacar, merci pour l'info.
Je suis fan mais pas accro. Le tennis, le skateboard, le patin à glace et tout, c'est des trucs que j'aime. Et bon, les Ivoiriens n'aiment pas trop ces genres de sports-là.
Et vos amis Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils disent quand vous dites que vous jouez au tennis ?
Ils disent que c'est un truc de blanc, c'est pas un truc de blanc. C'est vrai que c'est eux qui ont créé, ils le regardent plus. Mais il y a des Noirs aussi qui aiment ça en fait. Donc moi j'en fais partie.
Roland Garros, c'est aussi tous ces spectateurs qui ne comprennent pas tout de ce qu'ils vont voir. Et certains, et notamment cet Ivoirien interrogé par Babacar Diarra, doivent se battre aussi contre certaines idées reçues, et notamment celle que le tennis serait un sport de blanc, selon les Ivoiriens dans son pays. C'est ce qu'il nous dit. Babacar Diarra, au moins, leur sert de guide. Il est le nôtre aussi. Il est l'un des envoyés spéciaux de RFI sur Roland Garros. Son studio, nous avons des invités qui sont la preuve qu'il existe un tennis pour tous, pour tous les profils et pour tous les pays, puisqu'on a deux représentants du tennis béninois, comme quoi les Ouest-Africains, Ivoiriens ou Béninois ou autres peuvent aimer et pratiquer ce sport de raquette. On a d'abord avec nous Gloriana Naoum. Bonjour Gloriana.
Bonjour.
Pas trop stressée ?
Non, ça va.
Jeune joueuse béninoise, plus stressée à l'idée de participer à une émission de radio qu'à l'idée de rentrer sur un court avec des spectateurs et de disputer un match de tennis ?
Non, je dirais que c'est la même chose un peu. Genre, c'est ma toute première fois de participer à la radio. Et voilà. Genre, quand tu commences un match, t'es stressée, mais après, au feeling, ça doit passer.
Il faut prendre du plaisir. C'est ça le plus important. Mm-hmm. Bah, écoutez, bienvenue. Et je suis ravie de savoir que finalement, je suis un peu un sportif de haut niveau. Je le découvre aujourd'hui. Calopanzo, Welcome back, bonjour.
Bien, bonjour tout le monde. Voilà, c'est encore un honneur d'être ici présent parmi vous sur RFI.
Mais l'honneur, il est pour nous. Callum, jeune joueur béninois, vous avez participé à la Coupe Davis hein, avec le Bénin. Vous étiez déjà là hier. Gloriana, vous aussi, vous avez participé à des compétitions internationales pour le Bénin?
Non, mais en août prochain, il y a la Fed Cup où le Bénin va participer pour la première fois. Donc, j'espère que j'y serai. Là, la fédération elle vient de nous contacter. Le capitaine m'a contacté aussi. Donc, je verrai si je pourrai parce que j'ai un programme très chargé.
J'imagine que ce serait un honneur.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Je sais que Callum, hors antenne, hier, il disait à quel point c'était fou de jouer pour un pays
dans le dos, là. C'est quelque chose, hein.
Eh ben, écoutez, c'est parfait. On va parler de vos parcours respectifs dans un instant. Avec nous aussi, Stéphanie Lejob, présidente de l'association dont je parlais à l'instant. Faites le mur, bonjour.
Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Pour vous faire parler de Faites le Mur. Alors, le président de Faites le Mur, c'est Yannick Noah, en fait. Encore.
Ah, d'accord. Donc, ouais. Vous êtes quoi, alors?
Moi, je suis la directrice et Yannick Noah a fondé cette association il y a 29 ans et il en est toujours le président.
Bon, bah écoutez, vous faites bien de préciser l'organigramme. Rendons à Yannick ce qui lui appartient. Il lui appartient beaucoup de choses à Yannick Noah, évidemment. D'autres intervenants dans Mondial Sport, aujourd'hui plus distants, si je puis dire. Déjà, on a notre sociologue du sport à nous, pas qu'à nous, Séguir Lazeri. Bonjour Séguir.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Ravi de vous retrouver.
Je suis un peu... Mais vous êtes je me permets, hein, parce qu'il y a un événement. Je suis, donc, dans un contexte sociologique, l'équipe de l'Union Drancy-Saint-Denis, une réunion de deux clubs de Seine-Saint-Denis qui vient de, il y a quelques instants, de monter et de valider leur montée en National 2. Donc, dans un niveau semi-pro. Et c'est très important pour les auditeurs d'RFI, puisque beaucoup d'internationaux sénégalais jouent à l'Union Drancy, notamment les premières lignes. Et voilà, ils viennent de valider, c'est tout frais. Et je les félicite. Je les félicite parce que ça permet aussi aux 93, à des départements qui sont un peu éloignés, un peu des terres du rugby aussi, de faire valoir leurs atouts.
Oui, voilà, parce qu'il faut préciser, Séguir, que vous étiez donc devant un match de rugby dans le 93. Ce n'est pas si éloigné de ce dont on va parler, parce qu'on va parler aussi tennis en banlieue. C'est l'un des objectifs de Faites le Mur, donc en banlieue parisienne. Mais on s'intéresse quelque part à toutes les périphéries du tennis dans cette émission ce dimanche. Et enfin, Monsieur Roland sur RFI, Eric Mamrud. Bonjour Eric.
Bonjour Hugo, bonjour tout le monde.
Premier coup de raquette, Porte d'Auteuil ce dimanche et surtout... J'entends des applaudissements nourris. L'événement, il est moins sportif que, on va dire, cérémoniel. Un hommage au roi retraité de la terre battue de Paris, Rafa Nadal.
Il est là, sur le court, au milieu. Tout le monde est un petit peu ému de le voir. Il est en larmes, Rafa Nadal, et nous aussi un petit peu, parce qu'il est là, tout seul au milieu. Il est arrivé depuis 10 minutes sur le court, avec le public... à qui on a distribué... on l'entend, si vous voulez, on peut l'écouter un petit peu en français.
Je ne sais pas Nadal. Par où commencer, car après, on va jouer sur ce court pendant les 20 dernières années. Après, on va profiter, souffert, gagner, perdu, surtout. Après avoir été ému chaque fois que j'ai eu la chance... d'être ici.
C'est peut-être la première fois qu'on entend parler français avec des phrases aussi longues.
Beaucoup d'émotions et aussi pour les suiveurs de longue date de Roland-Garros dont vous êtes, Eric Mamrud. C'est le grand événement du jour, évidemment. Il y a d'autres légendes qui sont venues dire au revoir à la légende de Roland-Garros.
Ah, tout le monde est là. On a vu Carlos Alcaraz dans les tribunes, lui aussi avec un t-shirt orange, donc des t-shirts qui ont été distribués à tout le public. Donc quand Rafael Nadal est rentré, bien il a vu toute ce central de Roland Garros en orange avec un petit peu de blanc quand même, ce qui forme les mots merci à Rafa. On a vu le président de Faites le Mur, Yannick Noah, qui est là avec son épouse.
C'est pour ça qu'il n'est pas dans Mondial Sport. Alors.
Son nouveau bébé dans les bras. Puis il va y avoir du beau monde. Hein, on nous annonce ses camarades, ses légendes, camarades de jeu, Djokovic, Federer et Andy Murray qui vont venir tout à l'heure. Toute la planète tennis est là pour rendre l'hommage en fait qu'on n'a jamais véritablement rendu à Rafael Nadal. Il y en avait eu un le soir de sa retraite, une cérémonie un petit peu improvisée juste après la défaite de l'Espagne en Coupe Davis, donc au mois de novembre, une fête un petit peu bâclée puisqu'elle était prévue plusieurs jours après, donc on lui a bricolé un petit truc à la va-vite. Et là aujourd'hui, c'est véritablement l'hommage que voulait lui rendre Roland Garros et le monde du tennis. Et donc je vous racontais que c'était très émouvant de voir Rafael Nadal pendant 10 minutes au milieu du court en costume noir très classe, qui voyait le public l'ovationner pendant des minutes après avoir visionné un film retraçant ses moments de gloire ici à Paris. Et là, il était en larmes et il s'est peut-être jamais senti aussi seul sur son court préféré. Et ici, le central.
Bon, en même temps, quand il affrontait des gens sur le central, je ne vais pas dire qu'il jouait tout seul, mais il n'y avait pas beaucoup d'adversité face à lui. Gloriana Naoum, Rafael Nadal, je vous prends un peu par surprise. C'est un joueur qui vous a fait rêver en tant que spectatrice et même qui vous a inspiré en tant que joueuse.
Oui, je le regardais depuis que je suis toute petite avec mon père parce que en juin surtout, chaque fois tu vois Rafael Nadal en finale, ça fait plaisir de tout le temps le voir. Je me dis, moi aussi j'aimerais bien être à sa place, mais voilà quoi.
Donc c'est quand même une inspiration. Vous avez 19 ans, c'est ça?
Je t'en vais mes 19 ans, oui.
Oui, donc vous n'étiez même pas né lorsqu'il a remporté son premier Roland Garros. Oui. Rafael Nadal, vous n'avez connu presque que lui, Calimpanzo, Rafael Nadal, c'est la raison qui vous a fait mettre au tennis. Donc là, vous aussi, vous êtes ému de l'imaginer.
Dès que j'entends sa voix, de toute façon, là, ça, je ressens quelque chose, son énergie, elle me parle beaucoup. Ouais. Je l'apprécie trop, cet homme.
Pourquoi exactement on l'apprécie à ce point-là?
Rafa, il est humble, il est là, il est passionné, il est en même temps hargneux, puis il gagne tout le temps, il est là. Il a le cheat code, quoi.
Au Bénin, Gloriana, ils sont suivis, ces grands champions de tennis, dans un pays comme le Bénin?
Non, pas forcément, parce que le tennis, il n'est pas un sport très populaire au Bénin, je dirais. Donc, franchement, c'est que ceux qui font du tennis qui le
D'accord.
suivent.
Mais c'est pas l'équivalent d'un footballeur connu?
Non,
ou
pas du...
ou d'un joueur de pétanque, évidemment, pour parler de sport un peu plus populaire au Bénin. On retrouvera Eric Mamrit tout à l'heure pour les premiers grands résultats de la journée à Roland-Garros. Parlons de cette association dont le président rend hommage actuellement à Rafael Nadal. Faites le mur.
Je m'appelle Kadijatou, j'ai 9 ans et je viens de Bar-le-Duc.
Quel a été ton moment préféré aujourd'hui?
C'était... quand j'étais faire le tennis.
Qu'est-ce que tu penses de la journée?
Elle est très sympa. Il y a eu plein de trucs qui m'ont plu et j'ai adoré.
Je m'appelle Jasmine, j'ai 11 ans et moi je viens de Paris 17.
Qu'est-ce que tu penses de cette journée?
Moi j'aime trop déjà de venir à Roland-Garros et puis faire la course aux autographes.
Je m'appelle Aris Laroui.
Quel âge?
J'ai 9 ans et demi. Je viens de Grigny.
Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette journée?
Je pense que elle était bien à regarder les joueurs et tout ça. C'était super de regarder les joueurs, d'apprendre comment ils jouent, les techniques et tout ça.
Stéphanie Lejob, directrice de l'association Faites le mur, créée par Yannick Noah, donc le dernier vainqueur français de Roland Garros, faut-il encore le présenter, Yannick Noah. C'est quoi Faites le mur exactement?
Donc Faites le mur, c'est une association qui a été créée par Yannick Noah. Sa vocation première, c'était de rendre accessible le tennis dans les quartiers, auprès des enfants et des ados. Donc elle a été créée il y a 29 ans déjà.
Donc dans les quartiers,
les
banlieues.
On appelait ça les quartiers sensibles à l'époque. Maintenant, c'est les quartiers prioritaires de la ville. Et en fait, l'association, elle a vraiment commencé en prenant des raquettes, des balles, de la rubalise pour faire des filets de fortune et en s'installant en bas des immeubles et en invitant en fait les enfants à jouer, à découvrir le tennis. parce qu'on le sait, bah voilà, le tennis était un sport élitiste. C'est
plutôt pour les quartiers riches ou les gens les issus riches, des classes aisées.
Ce qu'il faut dire, c'est que déjà, ça peut, voilà, ça demande un certain budget de jouer au tennis, le matériel, inscription au cours, etc. Et puis, les enfants eux-mêmes des quartiers ne se sentent finalement pas autorisés à jouer au tennis. Il y a des barrières que se mettent eux-mêmes. Les
barrières symboliques.
Des barrières mentales que se mettent...
1996, la création de Faites le Mur, vous parlez d'un contexte. Qu'est-ce qui avait poussé Yannick Noah, un peu plus de 10 ans après son succès à Roland
Je pense qu'il y a plusieurs choses. En 1995, il y a eu une grande crise sociale en France. Et Yannick a voulu, avec ce qu'il était, aider comme il a pu. Et ce qu'il était, c'était aussi un joueur de tennis, un chanteur. On connaît aussi autre chose, mais voilà. Et puis, il faut rappeler que Yannick... Noah, finalement, a eu la chance de rencontrer Arthur Ashe.
Grand champion américain.
Exactement.
Afro-américain, lui a connu même les difficultés de pouvoir pratiquer son sport en tant qu'afro-américain
quand
il était petit.
Et c'est grâce à Arthur Ashe qu'il a pu venir en France s'entraîner et avoir la carrière qu'on lui connaît. Arthur Ashe, il y a toujours une association Arthur Ashe d'ailleurs, une association qui justement rendait accessible le tennis aux enfants défavorisés de New York. Et ça a aussi pu inspirer Yannick Noah. Voilà. Et donc il a fondé Faites le Mur.
C'est Guerre Lazerie, vous êtes justement en banlieue pour du rugby, un autre sport qui a une étiquette un peu élitiste ou classe sociale aisée qui lui colle à la peau. Faites le Mur, vous en aviez entendu parler en tant que sociologue du sport de cette association ?
Oui, alors pas simplement en tant que sociologue du sport, mais oui, j'ai eu écho de cette association, de cette politique de sensibilisation effectivement des quartiers populaires ou des zones urbaines sensibles à une pratique qui effectivement est élitiste de par son histoire et qui a connu en fait une révolution très particulière parce que il y a une révolution qu'on appelle une révolution Chartier, c'est du nom de ce fameux cours, enfin ce fameux
le central de Roland
effectivement qui est un ancien athlète qui est ancien président qui a révolutionné un peu le tennis en France et justement en mettant en place tout un tas de structures et en faisant notamment du tennis le deuxième sport national parce qu'il faut pas l'oublier, c'est quand même un élément central, c'est qu'on parle beaucoup effectivement de sensibilisation au tennis dans des endroits reculés de la France mais rendre reculé à l'échelle sociale, on va dire. Mais il ne faut pas oublier que le tennis, c'est presque 1 million de personnes. Il y a eu des pics dans les années 90 à plus de 1,3 million. C'est, en termes de structure sportive, le deuxième sport qui bénéficie de terrain sur le territoire. Vous avez les terrains, généralement, dans les collectivités territoriales, vous avez généralement des terrains de football et des terrains de tennis. Et c'est les deux éléments qui sont les plus répandus. Et malgré cet élan-là, malgré ces plans qui ont été mis en place, le tennis peine encore à recruter dans les milieux populaires, dans les classes qu'on pourrait parler, les groupes sociaux les moins aisés, parce qu'il y a une spécificité à la pratique. Et c'est souvent ce qui vient d'être soulevé, c'est cette forme de légitimité des athlètes ou des potentiels joueurs pratiquants, on ne va pas dire des athlètes, mais plutôt des pratiquants, à se dire qu'ils sont effectivement légitimes pour poursuivre une carrière.
Et d'où d'où ça vient ce manque de sentiment de légitimité?
Alors c'est très propre au sport de haut niveau, c'est-à-dire que si vous voulez susciter de la vocation chez un pratiquant, donc à ce qu'il devienne un athlète de haut niveau, il faut nécessairement que vous ayez des ressources à la fois sociales pour permettre cette ascension-là. Il faut que, par exemple, les parents soient investis en quelque sorte d'une mission, c'est-à-dire qu'en gros, qu'ils estiment que en fait, ça peut être une voie traçable pour l'enfant et investissent tous les moyens à disposition pour permettre cette ascension-là. Mais cette ascension aussi, elle repose aussi sur d'autres ressources qui sont plutôt des ressources matérielles. Donc, il faut avoir une espèce de cadre de vie, d'environnement qui soit un environnement plus ou moins confortable, c'est-à-dire pas forcément vivre dans le luxe, mais néanmoins avoir un emploi stable, avoir des revenus réguliers et aussi se dire qu'on va peut-être mettre de l'argent de côté pour permettre à son enfant de circuler dans le milieu du tennis parce que le tennis c'est aussi beaucoup de déplacements, d'investissements et ces investissements nécessitent effectivement des ressources et ces ressources ne sont possibles qu'à partir du moment où on croit en quelque sorte au tennis comme aussi un moyen d'ascension sociale et ça l'image du tennis cultivée dans l'imaginaire collectif qui se veut très élitiste aussi induisent un peu en quelque sorte mais plutôt à distance en quelque sorte les populations issues des classes populaires, voilà, en leur disant que c'est finalement peut-être pas un sport pour eux et que s'ils souhaitent au bout d'un moment s'investir, ben il va falloir y aller et c'est pas certain. Voilà, donc
si je vous suis, il n'y a pas de projet Mbappé, l'équivalent d'un projet Mbappé du côté du tennis. Alors, juste Séguir, je voudrais juste que Stéphanie Lejob puisse réagir parce que vous aviez l'air assez d'accord avec ce que disait Séguir Lazrier. Des choses que vous voudriez peut-être nuancer ou compléter, Stéphanie?
Oui, nous, effectivement, chez Faites le Mur, on essaye d'ouvrir le tennis au plus grand nombre, donc pas forcément faire que des athlètes de haut niveau. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on va. Il peut avoir des très bons joueurs dans les quartiers, évidemment, comme partout. Et à partir du moment où nous, on détecte un jeune qui a du potentiel, il faut que ça soit un projet qui soit mené à plusieurs. Il faut déjà que ce jeune il soit aussi détecté par le comité de la FFT, qui va pouvoir mettre la Fédération française de tennis, qui va pouvoir l'accompagner. Il faut effectivement que les parents... soit présent. C'est pas si simple de rentrer dans le monde du tennis, d'aller faire des tournois. Donc il y a les moyens financiers évidemment, mais il y a aussi tout cet accompagnement qu'il faut avoir pour que l'enfant se sente bien et garde son équilibre dans ce monde qui n'est pas le sien quand on vient des quartiers.
Séguir Lazri, vous vouliez réagir à mon expression projet Mbappé appliqué au tennis.
Alors, c'est très particulier parce que justement, il y a des projets et notamment quand les parents sont investis. On prend le cas, par exemple, des sœurs Williams où quand même, il y a même un biopic dans l'industrie cinématographique sur cette relation. Et on voit effectivement que les parents ultra investis ont carrément des projets. Mais ça souligne aussi la nature même de l'investissement, qui est un investissement extrêmement, qui est très, très important, qui est même démentiel hein, pour certains. Et ça va pas simplement de ressources matérielles, ça va aussi d'investissement personnel, psychologique ou autre. Et on voit aussi toute la démesure de ce genre d'activité là. Il faut quand même souligner un truc aussi qui est très important et on en parle pas assez. Et je voudrais aussi souligner les travaux d'une collègue à moi qui s'appelle Marine Fontaine et qui a énormément travaillé sur sa question. C'est ce rapport de genre aussi qu'il y a dans le tennis. C'est que les hommes et les femmes ne sont pas égaux dans cet accès à la pratique d'une part, mais aussi, alors qu'il y a quand même une forte féminisation, il faut le noter quand même, mais dans cet accès aussi au niveau et à l'idée que le tennis soit aussi un moyen d'ascension sociale significatif.
Stéphanie Lejob, on a entendu des petits jeunes que vous avez vous-même interrogés, parce que c'est vous qui nous avez fourni ces extraits sonores à Roland-Garros hier pour la journée. Yannick Noah, concrètement, Faites le Mur, donc il y a des choses pour Roland, et même plus largement, ouais. Combien de personnes sont bénévoles, combien de personnes bénéficient, entre guillemets, de vos services?
Ouais, Faites le Mur, en fait, on s'appuie sur le tennis pour faire de l'éducation par le sport, donc c'est déjà infuser des valeurs sportives, mais aussi citoyennes humaine. Et surtout, on veut accompagner les jeunes dans leur développement personnel et assurer leur épanouissement. Ça peut être à tous les niveaux. On a aujourd'hui plus de 17 000 bénéficiaires par an chez Faites le Mur qui sont accompagnés dans notre parcours. On les prend à l'âge de 5 ans et on va jusqu'à 18 ans et plus. On essaye de les accompagner le plus longtemps possible pour ouvrir leur champ des possibles, leur donner confiance en eux.
Mais est-ce que vous pouvez mesurer le nombre de pratiquants ou de joueurs de haut niveau qui viennent de banlieue, tout simplement, qui viennent pas de... Est-ce que c'est facile à mesurer les succès de vos actions d'un point de vue presque statistique?
Alors, c'est pas évident, puisque nous, vraiment, notre mission, finalement, c'est d'avoir un impact positif sur le parcours de vie de l'enfant qu'on va accompagner. Donc, ça veut dire que ça se mesure 20 ans, 15 ans, 20 ans après. Donc, c'est pas si simple. Après, on a une jeune. Je pense qu'on va pouvoir peut-être l'entendre.
Est-ce qu'elle s'appelle Léina?
Ouais.
Eh bien, écoute, voilà. on l'écoute tout de suite.
Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je me présente. Je m'appelle Léina Veil. J'ai 15 ans. Je suis une faite lumérienne depuis 4 ans déjà maintenant. J'ai commencé le tennis à l'âge de 3 ans à Beson, dans le Val d'Oise, grâce à mes deux grands frères qui faisaient du tennis également. Je suis actuellement numéro 2 française des 15 ans, ça fait 4 ans que je suis soit numéro 1, soit numéro 2 de ma catégorie d'âge. Donc Faites le Mur, c'est très important pour moi, parce que l'association Yannick Noah m'accompagne depuis que j'ai 10 ans maintenant. Ils me soutiennent pour que je puisse évoluer au plus haut niveau. Donc je fais partie de la team Avenir de Faites le Mur. J'essaie toujours de me libérer pour participer aux actions et aux sorties de Faites le Mur. Grâce à Faites le Mur, j'ai pu intégrer la team Jeunes Talents de BNP Paribas de la FFT. Et grâce à tout ça, à la rentrée, je vais me lancer sur le circuit professionnel femme dans les tournois futurs. Et ça, je ne les remercierai jamais assez. Merci beaucoup.
Léina B, que vous connaissez, Calum Ponzo.
Oui, je la croise très souvent dans le circuit CNGT homme-femme.
C'est quoi le circuit CNGT ?
C'est les tournois nationaux, là où il y a les numérotés.
Ok, donc c'est une consoeur, quoi, que vous reconnaissez.
Je connais bien son père également. Ouais.
Et Léina, Léina B, vous en parliez juste avant, Stéphanie Lejop, elle est représentative de ce que vous faites.
En tout cas, elle est représentative de ces enfants qui, voilà, qui ont eu la chance d'être accompagnés pour déployer leur potentiel en tennis. Nous, on a d'autres enfants dont le projet n'est pas forcément de devenir athlète. On en a, par exemple, qui deviennent encadrants en tennis. Il y en a qui deviennent médecins. Il y en a qui ouvrent des structures sociales. Enfin, ils ont chacun leur projet de vie.
Donc, il y a un côté, le rôle social du sport à travers votre association.
Exactement. C'est vraiment l'inclusion sociale et l'accompagnement jusqu'à l'insertion professionnelle, mais qui est sur mesure. Chacun peut avoir son projet de vie.
Le tennis sur toutes les surfaces, la question est posée dans Mondial Sport. La petite balle jaune est-elle universelle en France? Donc, on a vu qu'on essaie de la faire rebondir chez les moins favorisés, ou en tout cas loin des territoires classiques. À l'échelle du globe, les Africains peuvent-ils échanger avec les pays, on va dire, historiques du tennis, plutôt européens ou américains? On va écouter une star du continent, Ons Jabeur, la Tunisienne, qui a prouvé que oui, 3 finales de Grand Chelem dans sa carrière, même si ça va un peu moins bien pour l'ex-numéro 2 mondial depuis quelques temps, des blessures, une pause forcée en fin d'année dernière. Elle n'est plus dans le top 30 mondial avant de débuter son tournoi parisien. Ce sera mardi, mais elle est au micro d'Éric Mamrut.
J'essaie d'être en ma meilleure forme. Je me prépare, j'essaie d'être prête physiquement pour les matchs. Bon, ça n'était pas facile, mais je continue à sourire, à être positive en tout ça. Et j'espère que ça ira. Je pense que il y a la lumière au bout du tunnel ou un truc comme ça. C'est ça.
Comment vous avez vécu tous ces mois, justement, avec toutes ces blessures, à droite, à gauche, les forfaits, cet arrêt, mentalement, ça n'a pas dû être simple.
C'était difficile, j'avoue. Passer par une période comme ça, c'est pas facile. Et en plus de s'arrêter et revenir à chaque fois, c'est toujours difficile. Mais voilà, je pense que je fais de mon mieux de garder, d'être positive. Aussi d'accepter les émotions qui sont pas bien, mais ça fait partie du jeu. C'est mon chemin et je suis en train de continuer à être plus fort de jour en jour. Et je crois que cette période difficile va me rendre encore plus forte.
Est-ce que la motivation est toujours là ou des fois vous êtes posé la question, bon j'arrive à 30 ans
J'ai 20 ans mais bon, c'est pas grave. Oui, je prends chaque période très doucement, j'essaie de faire le rapport un peu avec mon équipe après chaque tournoi et voir comment ça se passe. Mais bon, la motivation elle est un peu là, des fois non, ça fait partie du jeu, c'est tous les joueurs ils sont comme ça. Mais on verra, pour le moment chaque jour est différent. Et on verra comment ça va se passer jusqu'à la fin de l'année.
Le rêve de gagner un grand chelem, vous y pensez toujours ou on met ça un peu de côté si ça vient?
Je pense 50% et 50% je ne pense pas. Je laisse faire avec le flow comme on dit. Et voilà, je serai contente de gagner mon grand chelem. Et si ça n'arrive pas, bah, je vais essayer encore et espérant que ça va arriver.
Ons Jabeur, la championne tunisienne. On a une future championne béninoise avec nous, Gloriana Naoum. Racontez-nous un petit peu votre parcours. D'abord, Ons Jabeur, c'est un exemple quand on est une joueuse de tennis africaine. Est-ce qu'une Ons Jabeur, ça inspire?
Oui, tout à fait, parce qu'elle a été numéro 2 mondiale quand même. C'est une première dans l'histoire. Elle a quand même eu la chance de faire 3 finales de Grand Chelem aussi. Elle a eu la chance de le gagner, malheureusement, aussi avec le stress et tout. C'est compliqué, mais oui, elle nous inspire, elle m'inspire tous les jours.
Vous avez parlé du fait que le tennis, c'est pas forcément le sport national au Bénin. Vous, comment... Déjà, d'où venez-vous au Bénin?
Du coup, je viens d'une ville à côté de la capitale économique. Elle s'appelle Calavi. Oui, je viens de là avec mes parents. Je m'entraîne à Cotonou, donc je me déplace.
Et comment ça se passe? Comment on se met au tennis, justement, dans un pays qui n'est pas forcément très, très, très attiré par ce sport?
Du coup, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que le tennis, ça vient de la famille de mon père. Mon grand-père y jouait, donc mon père aussi. Donc, je pense que j'ai suivi un peu la famille.
Mais justement, on manque peut-être un petit peu de... Là, vous avez les modèles familiaux, mais finalement, ce n'est pas forcément quelque chose de naturel. Est-ce que vous vous êtes dit, à un moment donné, le tennis, bah, ce n'est pas pour moi, parce que ce n'est pas forcément le... Il n'y a pas de joueur béninois que je vois à la télé, ou il n'y a pas un engouement particulier pour le tennis, ou il n'y a peut-être pas forcément des moyens énormes mis sur le tennis au Bénin?
Non, en fait, j'ai toujours cru que je pouvais faire du tennis, même si j'avais pas forcément vraiment les moyens. Donc, du coup, mes parents, je dirais, ils m'ont suivi. J'ai dit à mes parents, oui, je veux faire du tennis. Donc, ils ont dit, OK, on va suivre le chemin de notre fille. Elle est vraiment disciplinée. Elle veut vraiment faire le tennis. Elle se donne à fond. Donc, je pense que ils ont mis tout leur cœur, beaucoup d'investissement. Ils ont fait aussi, je dirais, beaucoup de prêts pour moi parce que vraiment le tennis, c'est un sport coûteux. Il faut payer les déplacements, l'hébergement, le coach et aussi payer son salaire tous les jours. Donc vraiment, c'était pas facile, mais je pense que...
Mais vous vous déplacez beaucoup?
Oui, je me déplace. En fait... Là, j'ai 18 ans, donc je suis à l'université aux États-Unis. Mais pendant ma carrière junior, je me déplaçais beaucoup en ITF. Je faisais beaucoup de tournois parce que mon objectif, c'était rentrer dans le top 100 pour faire les grands chelems comme Roland-Garros, l'US Open, Wimbledon et l'Australie Open pour avoir une chance, pour avoir plus de visibilité, me trouver des sponsors. Donc, c'était ça mon objectif pour poursuivre ma carrière. Donc... Oui, je dirais, je me déplace beaucoup.
Kalom Panzo, vous aussi, vous êtes un représentant du Bénin. Mais alors, vous, votre histoire est un peu différente parce que bah, vous êtes né en France?
Oui, je suis né ici, au Chénet.
Vous êtes... c'est où exactement?
C'est
région parisienne.
À côté de Versailles, c'est... Ouais.
Est-ce que vous étiez dans quel type de milieu vous êtes né? C'était plutôt classe moyenne?
Classe moyenne, ouais.
Il y avait beaucoup de gens qui jouaient au tennis autour de vous? C'était naturel pour vous de vous mettre au tennis?
Bah en fait, j'ai commencé le tennis de manière un peu spéciale.
C'est-à-dire?
C'est une sacrée histoire. Bah en fait, je regardais la télé et j'ai vu Nadal soulever la Coupe de Roland-Garros. Et franchement,
on y revient.
Dit, moi, je veux faire pareil.
Mais c'était naturel d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous aviez, au-delà de Nadal, il y avait un contexte qui vous a poussé au tennis ou peut-être justement le manque de représentativité des gens d'origine africaine. Alors, même s'il y en a, on a parlé de Yannick
Noah,
ou
de Wilfried Tsonga. C'est moi qui ai choisi vraiment de jouer au tennis. Je suis un mordu.
Et qu'est-ce que ça vous apporte, le tennis, absolu. Alors? Pourquoi est-ce qu'il faut se mettre au tennis? Peu importe.
Le tennis, pour moi, c'est un sport multifactoriel. Et c'est une autre dimension. En fait, le tennis, c'est la vie. Donc, pour moi, c'est à travers tous les problèmes qu'il peut y avoir genre dans le sport de haut niveau, tout ça.
C'est celui dans lequel vous vous retrouvez le plus, qui vous apporte le plus, c'est
bon, ça m'apaise de jouer au tennis, c'est ce que j'aime, quoi.
Gloria Nanaoum, pourquoi le tennis? Pourquoi il faut s'y mettre au tennis?
En fait, déjà, de base, moi, j'ai commencé le tennis parce que je prenais du plaisir. Je voyais mes amis tous les jours. Parfois, j'allais à l'école, oui, mais j'étais pas très ouverte. Donc, le tennis, ça m'a beaucoup aidée parce que je me faisais beaucoup d'amis. C'est juste, je dirais, une passion. C'est une autre vie. Ça m'aide à contrôler mes émotions, voilà, c'est juste une autre vie. Genre, je peux pas la décrire, mais je pense que tous les enfants devaient essayer quand même à jouer au tennis parce que juste pour avoir du fun et voilà, je dirais ça.
Est-ce que ça vous a demandé des sacrifices, vous avez été confronté à des difficultés d'un point de vue?
Énormément, ouais. Par exemple, j'ai été au CNED, donc déscolarisé. Tout ça, c'est...
Les cours par correspondance.
Voilà, c'est ça, CNED, cours par correspondance. C'est pas évident parce que tu commences... Moi, j'ai commencé, voilà, j'ai fait 6e, 5e, j'ai arrêté en 4e. Et tu quittes tes amis. Donc, toutes les personnes avec qui t'as grandi, d'un coup, tu te sépares d'eux, tu te retrouves un peu seul. Voilà, c'est pas évident à gérer au départ, mais Mais on s'y fait vite quand on aime ça. Moi, je suis passionné, donc j'ai vite compris pourquoi je faisais tout ça et j'en suis fier aujourd'hui.
Seguir Lazeri, la dimension individuelle du tennis peut expliquer aussi son manque peut-être d'universalité, on va dire.
Non, on peut pas. C'est pas nécessairement une question individuelle, enfin de parcours individuel. Non, mais c'est plutôt l'accès à ce que le tennis en fait se divise à peu près en deux espaces. Il y a vraiment l'espace de la pratique, l'espace de loisir qui, elle, s'est fortement démocratisé. Et puis après, il y a l'espace de l'élite. Et comme on l'entend dans ces témoignages-là, ça demande un investissement parfois un peu phénoménal. Et on se rend compte que finalement, cette élite-là conserve des disparités très importantes. Et c'est sans doute ça qui fait que, bon, en fait, il y a des résistances à ce que certains joueurs de tennis, certains pratiquants franchissent le pas. Là, on a entendu des témoignages quand même assez significatifs, justement, sur à la fois l'investissement que les parents doivent avoir, donc à la fois financier, ça a été évoqué, puis après aussi la dimension aussi ultra solitaire du sport de haut niveau dans son absolu. Donc il y a aussi cette notion-là. Et puis après, il y a un autre point qui est sans doute très important, c'est et qu'on a dans le tennis et qui a aussi créé peut-être du désordre, surtout en ces dernières années, c'est cette dimension entraîneur-entraîné. C'est une dimension assez singulière, assez particulière, et elle est aussi le nœud de la consécration d'un tennisman. Parfois, dans d'autres sports, il y a le collectif qui joue, il y a une structuration qui joue énormément, mais on se rend compte que dans le tennis, et c'est ce qu'on dit, c'est que la relation entraîneur-entraîné est essentielle, voire nécessaire pour pouvoir performer. Donc, effectivement, il y a l'idée d'aller chercher le bon entraîneur, d'aller chercher la bonne structure, de se familiariser. Donc, il y a aussi un investissement relationnel très, très puissant à avoir dans le tennis. Et ça, bah, il faut que vous soyez aussi dans une forme de confort de vie, confort mental aussi très important pour pouvoir mener à bien ces projets-là.
On va rester en partie en Afrique de l'Ouest. On va entendre une révélation de ce début de saison, donc chez les pros. Le Canadien Gabriel Diallo, 53e mondial. Il a fait une finale à Madrid le mois dernier, donc gros tournoi, Masters 1000. Il fait des études de finance aux États-Unis. Puis il s'est lancé dans une carrière pro, 23 ans, comme vous, Callum Panzo. Son père est né à Conakry, sa maman est ukrainienne. Il dispute son deuxième Roland-Garros, un profil qui rappelle évidemment celui de son compatriote un peu plus connu, Félix Auger Aliassim, relié par son père au Togo, Gabriel Diallo, avec Eric Mamrout.
Je représente le Canada et je suis extrêmement fier d'être né au Canada, de représenter le Canada, mais je suis autant fier de mes origines. Malheureusement, je n'ai jamais eu la chance d'y aller encore en Guinée, mais c'est quelque chose que mon père et moi, on essaye d'organiser depuis un moment. Ce n'est pas quelque chose qui s'organise du jour au lendemain, donc non, mais j'ai très hâte d'y aller, de voir la famille de mon père, de les rencontrer pour la première fois.
Qu'est-ce que vous avez envie justement de voir, de sentir peut-être là-bas? Il doit y avoir une part d'inconnu que vous avez envie de résoudre.
Oui, c'est sûr que, en tout cas, l'Afrique en général, moi, je n'ai jamais été. Donc, c'est un coin du monde que j'aimerais vraiment découvrir, et encore plus la Guinée, parce que c'est la terre natale de mon père. Après, ça va être plus à mon père de me préparer pour ça. Moi, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Il m'a raconté un peu des histoires. J'ai beaucoup parlé avec Félix aussi, qui est allé au Togo plusieurs fois. Donc, je suis très hâte d'y aller.
Dans votre jeunesse, c'était un peu présent. Je ne sais pas s'il y a dans la famille des plats ou des histoires.
Ouais, non, il y avait beaucoup le côté en tout cas guinéen, les plats. Ils faisaient beaucoup, ils préparaient, c'est une sauce aux feuilles, je ne sais pas trop quoi, une sauce d'arachide. Ma mère, elle a appris à faire ça aussi, donc j'ai beaucoup mangé ça. Personnellement, je suis beaucoup les autres athlètes qui ont peut-être des origines guinéennes, comme Pogba par exemple, la famille Pogba, ou il y a un jeune dans l'académie du FC Barcelone, la Mancia, qui est en train de battre tous les records. Son famille, c'est Diallo aussi. Donc tout ce qui est lié avec, en tout cas, l'ethnicité de mon père, dès que je sais qu'un athlète, c'est un peu, tout de suite, il y a un engouement, je suis un peu derrière lui. Donc c'est intéressant.
Donc les peuls peuvent compter sur un joueur de tennis de très très haut niveau, ça veut dire ça en fait, c'est ça?
Ben, moi, je suis fier d'être peul, je ne parle pas le langage, je sais dire une chose, puis c'est ce que mon père m'a appris, puis c'est ça, oui, ils peuvent être fiers d'avoir un joueur de tennis canadien, mais qui est très fier d'avoir des origines peul.
Et c'est quoi que vous savez dire?
Andialamanani. C'est tout. Je crois que ça veut dire bonjour, comment ça va?
Alors le côté africain, vous avez pu le cultiver avec Félix, donc, parce que vous étiez très proche dès le début, non? Mm-hmm. Depuis quand en fait?
Ouais, depuis très jeune âge, depuis 9 ans, 10 ans. J'allais m'entraîner chez son père qui avait une académie à Québec et ensuite j'y suis retourné à 15-16 ans. Donc oui, c'est sûr qu'on a une affinité particulière par rapport à ça. En plus, son père est togolais, juste à côté de la Guinée. Donc oui, c'est sûr que ça m'a rapproché beaucoup avec la culture de l'Afrique de l'Ouest. Et puis c'était des périodes charnières de ma vie.
Gabriel Diallo qui jouera son premier tour de Roland-Garros demain contre l'Argentin Francisco Cerundolo. Est-ce que Callum Panzo et Gloriana Naoum, vous avez envie un petit peu qu'il y ait plus d'engouement pour le tennis au Bénin? On va parler de votre pays à vous, c'est pas la Guinée, mais est-ce que vous avez l'impression, au moins quand vous avez joué la Coupe Davis, Callum, est-ce que vous avez eu l'impression que ça pourrait prendre un peu plus dans certains
prendre,
pays africains?
Ouais. Ça, yes. En fait, c'est le Bénin, c'est ça peut prendre une ampleur. J'aimerais bien que ça, l'ampleur grandisse un peu plus quand même.
Voilà. Gloriana.
Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de jeunes enfants que forcément, ils n'ont pas vraiment les moyens, mais il y a beaucoup de potentiel et de qualité, je trouve. Et que si on fait un peu plus d'efforts avec la fédération qui, avec leur aide, ils ont pu organiser la Davis Cup au Bénin, je trouve que ça montre déjà au Bénin que oui, il y a une chance, oui, on peut faire évoluer le tennis au Bénin. Je pense que oui, j'aimerais voir... Cet
engouement, parce que vous avez joué Callum à Cotonou, des matchs de Coupe Davis. C'est pas la première division, entre guillemets, mais ça a suffi déjà à créer quelque chose.
Le fait de voir dans le regard des gens toute cette joie, déjà, ça régale. Mais en tout cas, ça peut prendre plus d'ampleur, oui.
Stéphanie Lejop, les exemples justement d'athlètes qui assument des doubles cultures, des liens avec justement des pays qui peuvent aussi parler aux populations des quartiers populaires en France, ça peut aider justement à démocratiser le tennis.
Carrément, en fait, le but c'est de montrer que le tennis il est ouvert à tous. Et que il peut avoir un super joueur qui vient de.
On n'est pas obligé de s'appeler Paul-Henri Mathieu, j'ai rien contre lui, mais voilà.
On espère qu'un jour on aura un enfant de Fête le Mur qui ira sur la terre battue de Roland Garros, voilà.
C'est sûr. Séguir Lazeri, finalement, le paysage du tennis, notamment en France, mais vous parliez aussi des États-Unis, les sœurs Williams. Il y a quand même de la diversité. Aujourd'hui, la nouvelle star, c'est Arthur Fils, origine haïtienne. On a Ali Hassim, Diallo. Avant, il y avait Tsonga, mon fils Yannick Noah, évidemment, qui est quand même chef de village au Cameroun. Hein, donc, il incarne la diversité. Et pourquoi, quand même, il y a quand même cette idée de sport un peu de blanc, de vieille Europe, de vieil Occident, riche et un peu pas très ouvert?
Déjà, de par sa visibilité, les espaces, les codes du tennis hein, qu'on voit, qui sont transmis, qui sont assez visibles, qui sont assez médiatisés. Et puis après, si on prend en compte aussi l'origine ethnique ou même raciale de certains individus, il faut ne pas oublier la dimension de classe sociale et sociétale. Et c'est aussi parfois et souvent l'élite aussi de ces populations-là qui ont accès aussi aux cours de tennis. Donc, il y a des filiations, il y a des transmissions, il y a des formes d'héritage qui ne sont pas simplement le fait d'un marqueur ethnique ou racial, mais aussi qui sont le fait d'un marqueur social et économique très important. Donc, tous ceux que vous avez cités, ils sont aussi très intégrés socialement. Yannick Noah est un enfant, en plus, qui plus est de sportif de haut niveau. Donc, il y a une transmission qui se fait là. Mon fils, entrepreneur, il y a tout un tas de parcours et de trajectoires qui font qu'ils vont mobiliser en dehors de la structure sportive aussi toutes les ressources nécessaires pour pouvoir parcourir le monde du tennis et performer.
Dernier témoignage dans Mondial Sport, Tiansu Sarah Rakotomanga Rajanoa, gauchère de 19 ans qui au moment de débuter cette émission était sur les courts pour son premier Roland Garros. Elle est née à Madagascar, elle est aussi française, elle est un peu sur une double nationalité comme vous, Callum Panzo. Premier Roland Garros donc pour elle ce dimanche, elle suit les traces d'une autre franco-malgache, Tessa Andrian Jaffitrimo, désolé pour les prononciations. Tiansu Sarah Rakotomanga Rajanoa, elle s'est confiée avant son entrée en lice à Eric Mamrot.
Je suis née à Antirabé, j'ai vécu jusqu'à mes 7 ans, je crois, à Madagascar. Et ensuite, mes parents ont décidé d'aller vivre en France. Donc on est arrivé en France, à Montpellier, quand j'avais 7 ans. Je me sens aussi malgache tout autant que française. Après, c'est vrai que j'habite en France, je joue pour la France, donc je suis fière de représenter la France, quoi. Mais c'est vrai que mes origines, on va dire la source, c'est quand même, je suis quand même malgache. Oui, j'ai des souvenirs. Après, je suis revenue aussi une fois aussi voir ma famille, parce que j'ai encore toute ma famille là-bas aussi. Mais oui, j'ai des souvenirs, ouais, j'ai de beaux souvenirs. Toute la partie de mon père, quasiment, est en France.
Et là-bas ?
Toute la famille de ma mère. toute la famille de ma mère, ouais. Nombreux, ouais. Ben voilà, hein, ça fait partie aussi d'un des sacrifices, c'est que pour rentrer à Madagascar, c'est de l'argent et c'est du temps. Et c'est assez compliqué de retourner là-bas, quoi. Ben là, la dernière fois que j'y suis allée, c'était il y a 10 ans. ouais, c'est il y a longtemps. Et c'est pas facile, surtout les grands-parents et tout ça. J'ai vécu un peu sans eux, donc ça fait quand même un peu de mal. Donc c'est pas facile à vivre tous les jours. Après, bon, voilà, je les ai quand même parfois au téléphone, etc. Mais c'est vrai que grandir un peu sans eux, sans toute ma famille, c'est assez compliqué aussi à gérer.
Tu as des retours hors famille des supporters déjà, un petit peu là-bas, avec les réseaux, tu as des retours ?
Oui. Mais je pense que je rends fier aussi le pays, d'un côté, qu'il y a beaucoup de gens qui me supportent, et voilà, c'est super. Hein.
Tu la connais un petit peu, Tessa ? Il y a des relations particulières ou pas ?
Oui, je la connais, Tessa. Je la connais. On s'est rencontrés quand j'habitais à Montpellier. Elle aussi, elle habitait à Montpellier, elle s'entraînait avec son père. Ensuite, il y a son père aussi qui m'a entraînée pendant un certain temps quand j'étais petite. Donc, je la considère un peu comme une cousine, on va dire, moi, de mon côté. C'était un modèle quand j'étais petite. Voilà. Même jusqu'à présent, ça reste un modèle. Je voulais être comme Tessa.
Alors, tu as fait les qualifications l'an dernier, c'est à Roland-Garros, mais là, tu es dans le grand tableau de Roland pour la première fois. Ça fait quoi ?
Ça fait quoi ? Je suis super contente. Hein. C'est une étape encore que je vais franchir. Donc, je suis super contente et super excitée pour mon match.
On arrive pour un premier Roland-Garros, on a envie de quoi, surtout ?
De kiffer. Hein. De kiffer. On est quand même un premier grand chelem. Il faut savourer ça. Il faut prendre du plaisir.
Ton style, c'est être agressif, c'est ça ?
Moi, je suis agressive, je suis quelqu'un de gauchère, agressive.
Gauchère, terre battue, on pense à...
Ouais, on pense à Rafael Nadal directement. Nadala, du coup, je sais pas. Ouais, c'est une inspiration. Il n'y a pas non plus énormément de gauchers, donc depuis que je suis petite, c'était l'inspiration Rafael Nadal.
Bon, Afrique du Nord, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, mais on en revient toujours à Nadal dans le tennis. Tiantsoa Sarah-Rakotomanga Rajanoa qui malheureusement donc s'est incliné en 2-7 pour son premier Roland, 7-6-6-2 contre Romero Gormaz, une Espagnole. Je vais quand même signaler tout à l'heure, parce qu'on n'aura pas le temps d'entendre Eric Mamrud sur les résultats du jour. Vous avez été tellement passionnants, tous ceux qui ont participé à cette émission, qu'on n'a pas le temps pour retrouver Eric Mamrud, mais il nous aurait sûrement parler de la qualification d'un jeune Français dont le père était international, footballeur international de RDC, Giovanni Pecci-Péricard, donc qui est aussi un espoir du tennis français. Je voudrais vous remercier toutes et tous. Ségur Lazeri à distance, Gloriana Naoum, jeune joueuse béninoise dont on suivra évidemment la carrière et le parcours. Callum Panzo, qui est désormais une star et un habitué de Mondial Sport. Stéphanie Lejop, l'association Faites le Mur. On vous retrouve peut-être l'année prochaine pour les 30 ans.
Ah bah oui, avec
pour l'anniversaire, ce serait avec un plaisir partagé. Assez tous à Maquet à préparation. Hélène Avril à la réalisation. C'était Mondial Sport. On se retrouve le week-end prochain. Tout de suite, un nouveau journal, puis Géopolitique. Et puis demain, évidemment, Radio Foot International sur Radio France Internationale. Excellente soirée.